Bonjour à tous, je suis Nathalie Korbleski, je suis chercheure à INRAE dans l'unité de recherche des écosystèmes forestiers à Nogent-sur-Vernisson, à l'est du Loiret, et je travaille plus particulièrement sur tout ce qui est les relations sol-plante, mais plus spécifiquement en écologie forestière, la branche d'écologie fonctionnelle, c'est-à-dire j'essaie de comprendre le fonctionnement, en l'occurrence le fonctionnement des cycles des éléments et l'utilisation des ressources dans les écosystèmes donc forestiers. Aujourd'hui, je vais pas directement vous parler de mes recherches, ou seulement un pan de mes recherches, mais aussi des travaux qu'on a faits sur le dispositif Optimix, en vous présentant ce dispositif au début. L'URFNO est dans le Loiret, dans la région Centre-Val-de-Loire, et on est à droite de la forêt d'Orléans, Orléans étant à gauche, à l'ouest. Et donc, la forêt d'Orléans étant une grande forêt domaniale, puisque c'est la plus grande forêt domaniale de France avec 55 000 hectares, c'est forcément pour un écologue forestier un terrain de jeu idéal. Et c'est sur ce domaine que nous avons installé ce dispositif expérimental qu'on nomme Optimix. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en anglais, c'est Oak Pine Tree Mixture. Alors, nous avons installé ce dispositif réparti sur différentes parcelles du massif de Lauris-les-Bordes dans des peuplements de futaies régulières, matures, âgées de 60 à 80 ans, avec des parcelles constituées seulement de chênes, des parcelles constituées seulement de pins et des parcelles en mélange. Donc, nous avions trois compositions. Et donc, c'est le premier facteur. Nous avions installé trois compositions. Nous avons également installé d'autres facteurs. Mais pourquoi on a commencé par choisir le facteur de la composition et du mélange? Comme on en a parlé un petit peu ce matin, c'est que dans les stratégies sylvicoles qui sont mises en place, ou en tout cas envisagées pour faire face au changement climatique, le mélange des essences est une des stratégies qui est privilégiée ou en tout cas envisagée avec l'hypothèse que mélanger permettrait d'augmenter la résistance, la résilience des peuplements, dans l'idée un petit peu imagée de dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et que s'il y a une espèce qui est attaquée ou qui fait face à des difficultés à un aléa biotique ou abiotique, l'autre espèce peut compenser. Et donc le peuplement en soi être plus viable. Donc on a mis en place un dispositif de comparaison de ces trois peuplements. Puis le deuxième facteur, c'est la mise en place de la densité. Là encore, c'est une sylviculture envisagée pour faire face au changement climatique, avec l'esprit que si on a moins d'arbres, on a moins de concurrence, moins de compétition, notamment vis-à-vis de la pompe en eau, la ressource en eau. S'il y a moins de pompes en eau, il y aura plus de ressources pour les arbres restants. Donc, on a travaillé sur trois densités. La densité moyenne, qui est la densité actuellement réalisée, une densité faible avec moins d'arbres par hectare, et puis une densité de libre évolution pour voir jusqu'où la compétition et le stress pouvaient amener des contraintes et comment sur ce gradient-là tous nos paramètres influent. Et puis, il y a un troisième facteur qu'il faut prendre en compte, que souvent on n'en tient pas compte, or que dans nos forêts, on a quand même du grand gibier, dont les populations augmentent de façon quasi exponentielle depuis 40 ans. Donc, en termes de régénération, de développement du couvert forest, du sous-bois forestier, ça a un impact important. Donc, on a rajouté ce facteur-là avec trois niveaux de pression d'herbivorie, donc de présence des grands herbivores, grands ongulés sauvages de la région, qui sont le cerf, le chevreuil et le sanglier, avec des parcelles ouvertes, donc avec libre circulation des animaux, des enclos qui limitent la présence de ces animaux, et puis des enclos sélectifs qui permettent de faire passer le sanglier, mais pas les ongulés, pas les cerfs chevreuils. Donc, trois facteurs. Pour chaque, on a trois répétitions. ce qui nous fait au total 33 placettes, chacune de demi-hectare, et avec des ondes tampons, ça nous amène à un dispositif expérimental de 40 hectares, dont le cœur qui est 17 hectares de suivi scientifique. Ce dispositif est le deuxième plus grand dispositif en France sur des peuplements forestiers. Le premier étant géré par l'INRAE de Bordeaux, c'est le dispositif Orphée sur des peuplements beaucoup plus jeunes. C'est le seul de cette ampleur en forêt adulte, ce qui permet de voir un certain nombre de processus de régénération et de cycles qu'on ne voit pas forcément sur les peuplements jeunes. C'est le seul dispositif croisant trois facteurs et contrôlant ces facteurs. Donc c'est vraiment un dispositif important de long terme, puisqu'on est, on est parti sur normalement au moins 20 ans d'études. On remercie d'ailleurs l'ONF qui nous met à disposition, avec des conventions, les terrains et les sites sur lesquels on peut faire nos suivis et nos expérimentations quasi sans contrainte. Les suivis d'ailleurs qu'on y fait sont de, on va dire, trois catégories. On y suit la croissance des arbres, évidemment. On a d'ailleurs inventorié et cartographié l'ensemble des arbres que nous avions sur le dispositif. On suit également la croissance intra-annuelle pour suivre l'effet des sécheresses estivales, par exemple, sur la croissance, à quel moment il va s'arrêter de croître, et est-ce que c'est corrélé directement à la température ou la précipitation, le manque de précipitation plutôt, etc. Deuxième volet, c'est l'utilisation des ressources. On entend par là plutôt l'eau, la lumière et les nutriments. Nous avons installé un certain nombre de capteurs, un grand nombre de capteurs, à la fois dans le sol et à la fois en aérien. On a un grand nombre de données, puisqu'on a plus de 1 million de données qui sont mesurées par jour, qui fait des grosses bases de données. Puis on suit les cycles de nutriments avec des collecteurs de litière, des suivis des décompositions et des analyses chimiques des feuilles fraîches, de la litière et du sol de temps en temps. Le troisième volet, c'est la dynamique du sous-bois et de la biodiversité. Donc là, on a des suivis par des petits placeaux sur toutes les placettes. On fait également des pièges photographiques pour suivre la fréquentation des animaux, et puis des suivis de biodiversité à différentes échelles, donc à l'échelle des placeaux, mais ça peut être aussi sur les troncs d'arbres. C'est ce point-là que je vais plus détailler aujourd'hui, mais je vais quand même rapidement vous donner les thématiques de recherche, les questions qu'un scientifique en se pose, et puis quelques réponses phares qu'on a pu déjà trouver. Le dispositif est installé depuis, on l'a inauguré en l'automne 2015, donc ça fait 5 ans. On a eu deux thèses dessus, enfin une qui est en cours, mais une autre qui est soutenue en 2019, et quelques autres travaux. Donc on a déjà quelques résultats, même si c'est un dispositif de long terme. Donc ces questions scientifiques forcément se calent avec les catégories que je vous ai citées juste avant. Donc, une des premières questions, c'est est-ce que l'effet du mélange d'essence est bénéfique sur la productivité des peuplements forestiers, je parle des arbres, et aussi pour la résistance et la résilience de ces peuplements. Alors, chaque fois, je vais décliner les réponses qu'on a pu avoir directement sur le dispositif OptiMix, et puis des réponses un peu plus générales, sous l'entête globale, qui sont des résultats qu'on a pu avoir avec d'autres données acquises dans d'autres projets ou de la littérature, souvent le cumul des deux. Donc sur OptiMix, pour répondre à cette question, est-ce que l'effet du mélange a eu un effet sur la productivité? Ben, ce n'est pas très très net. L'effet est plutôt faible. Globalement, il est plutôt positif pour les chênes, que ce soit la productivité ou la résistance pendant les événements climatiques de sécheresse estivale. Et ce serait positif pour les chênes, mais au détriment des pins qui subiraient, eux, une plus forte sévérité pendant les épisodes de sécheresse. Globalement, à l'année, les peuplements sont aussi productifs ou légèrement mieux sur le dispositif OptiMix en mélange par rapport au peuplement pur. Plus généralement, en France et dans le monde, ce qu'on a pu voir, c'est que les articles qui sortent sont plutôt tournés vers les effets positifs de la productivité. Donc, ils relatent plutôt les mélanges qui sont intéressants pour augmenter la productivité des peuplements mélangés, et ils seraient également plus résilients. Mais des études sur l'ensemble des données de l'IFN à l'échelle France, par exemple, mettent en évidence que ces effets de couple d'essence ou de plusieurs espèces dépendent pas mal des essences qu'on met en présence. Et ça peut être très variable. Ça peut aller de très positif à neutre, voire parfois même négatif, d'autant plus qu'il y a aussi le facteur de la richesse du sol qui va jouer. Et dans les sols pauvres, l'effet est plus positif que sur les sols plus riches. Donc, sur des sols riches, on peut voir des effets même négatifs du mélange par rapport à des sols plus pauvres. La deuxième question est liée à l'utilisation des ressources. Et on pourrait se demander de la même façon, est-ce que les facteurs qu'on teste, le mélange et la densité d'arbres, modifie les stratégies d'utilisation des ressources et modifie le cycle des éléments, la quantité disponible, etc. Donc les trois ressources qu'on a étudiées, c'est l'eau, la lumière et les nutriments. Globalement, ce qu'on a trouvé sur le dispositif OptiMix, c'est que les modifications que le mélange entraîne certaines modifications de traits. Par exemple, c'est des caractéristiques morphologiques ou physiologiques. Je pense notamment à l'architecture du houppier. Les arbres, les chênes en mélange n'ont pas le même volume de houppier et la même répartition dans la canopée que quand ils sont seulement avec des chênes. La prospection racinaire pourrait être également modifiée, mais elle ne l'est pas en forêt d'Orléans parce qu'il y a une contrainte du plancher argileux qui limite la prospection. Et donc, plutôt que l'aspect morphologique, là, nous, on a vu des modifications de fonctionnalité, de profondeur d'acquisition de l'eau, qui est là aussi été en faveur plutôt de la productivité et de la croissance des chênes, parfois, encore une fois, ici, au détriment du pin. Donc, le mélange modifie certains traits et globalement, c'est plutôt en faveur de l'acquisition des ressources, alors l'eau, mais aussi des nutriments, avec une accélération de la décomposition des litières, peut-être en lien avec la biodiversité d'ailleurs, qui permet d'avoir un statut nutritionnel des arbres meilleur, que ce soit ici d'ailleurs pour le chêne comme pour le pin. Pour ce qui concerne les résultats de la littérature, on a les mêmes tendances, on observe aussi des différences de certaines caractéristiques quand les peuplements sont, quand les essences sont en mélange. Mais ça, c'est très variable en fonction des couples d'essences, les essences en présence. Et on a donc un effet de l'identité de l'espèce qui est très important et il est systématiquement relaté comme plus important que l'effet mélange et encore plus important que l'effet de la diversité. Ce que je veux dire, c'est que si on met deux essences, il y a plus d'effet que si on en rajoute une troisième, une quatrième, une cinquième. Et au bout d'un certain nombre d'augmentation de la diversité, l'effet ne se voit plus. C'est l'introduction d'une nouvelle essence qui aurait un caractère différent ou une identité bien propre, comme une légumineuse, comme robinier, qu'on ajouterait dans un pool d'essences qui a un effet sur le cycle des éléments, par exemple, qui a une importance particulière. Troisième question, l'exemple de question qu'on se pose, c'est le rôle des herbivores sur la régénération. D'autant plus que quand on est en mélange, souvent le chêne et le pin ne sont pas exploités à la même période. Comment régénérer ces deux essences alors qu'une peut être coupée avant l'autre et que peut-être l'une est plus appétante que l'autre. On pense aux glands qui sont plus appétants pour les sangliers, mais les jeunes chênes très tendres sous la dent des cervidés. Donc, comment gérer cette régénération dans ces conditions et quel impact aussi de ces herbivores vis-à-vis de la dynamique du sous-bois et la diversité de la flore? Alors évidemment, c'est un peu enfoncer les portes ouvertes peut-être, mais l'impact de ces herbivores est très dépendant de l'espèce de sous-bois qui est présente, en termes d'appétence et de tolérance évidemment. Mais on voit que ces cervidés peuvent avoir des effets intéressants sur la dispersion des graines et sur la mise à nu de certaines zones du sol qui permet d'augmenter la germination et des permettre une mosaïque de situation pour les graines pour s'installer et pousser. De façon globale, la pression c'est quand on a une pression intermédiaire de ces herbivores qui permet de favoriser la biodiversité. Alors, si je pousse un petit peu, que je détaille un peu les effets du mélange sur la biodiversité, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, moi je vais m'intéresser à quelques groupes seulement, parmi tous les groupes qu'on peut voir dans le sol. On s'est plutôt intéressé à ce qui poussait sur le sol, donc les bryophytes terricoles, ce qui est les mousses qui poussent sur les sols. Alors, on travaillait aussi sur la litière à décomposition, donc tous les organismes qui ont un rôle dans ce cycle de la matière nous ont intéressés. Donc on a fait des études sur les coléoptères carabidés, donc les carabes, et puis on a fait quelques études sur la mésofaune du sol et de la litière, d'ailleurs en collaboration avec l'unité de Michael Aubert qui a fait des présentations sur ces groupes-là ce matin. Donc je vais vous parler de ces bryophytes, des collemboles aux ribates et un peu des coléoptères. Alors d'abord, ces études nous ont fait faire des inventaires, notamment sur les mousses, et ces inventaires ont permis de détecter des espèces rares de bryophytes en région Centre-Val de Loire et dans le Loiret, certaines n'ayant jamais été décrites auparavant dans la région. Et certaines de ces espèces sont classées sur la liste rouge potentielle en région Centre-Val-de-Loire. Donc, c'est intéressant d'avoir fait des inventaires pour répertorier toutes ces espèces de mousses, ce qui a permis d'ailleurs d'implémenter des cartographies de la présence des mousses terricoles dans la région. Ensuite, les grandes hypothèses qu'on avait ou que les scientifiques et les gestionnaires ont sur les peuplements mélangés vis-à-vis de la diversité, c'est qu'on a entendu pendant très longtemps que si on augmente la diversité des espèces d'arbres, de fait, ça va augmenter la diversité de la flore et de la faune en dessous, notamment celle du sol. Donc, ce serait l'hypothèse ici que je vous présente, H1, qu'en mélange, la diversité serait maximale, avec donc l'hypothèse que les populations, les communautés des peuplements purs de chênes et de pins, ça s'additionne finalement en mélange. Mais enfin, on a aussi d'autres hypothèses qu'on pourrait émettre, qui sont que le mélange a plutôt une diversité intermédiaire entre les deux peuplements et que soit dans le chêne, le feuillu, soit dans le pin, selon les taxons, la diversité serait maximale. Et puis, on pourrait aussi émettre la troisième hypothèse, que finalement, le mélange, ça ne change rien sur la richesse spécifique. Alors, qu'en est-il et qu'est-ce qu'on a pu observer, nous, dans nos parcelles en forêt d'Orléans? Alors, je vais commencer par les mousses, les bryophytes. Dans ce cas-là, le mélange avait une richesse spécifique intermédiaire au peuplement le plus riche, qui était ici le chêne pur. On a pu également montrer que on a pu également fixer ou déterminer une surface derrière, c'est-à-dire le nombre d'arbres à l'hectare, qui serait optimal pour avoir un maximum de diversité de ces mousses, qui est une surface derrière assez élevée et qu'on rencontre finalement assez peu dans les gestions forestières actuelles. Pour la faune du sol, donc les carabes à gauche, là, on n'avait pas de différence entre nos parcelles forestières. Pour les collemboles au centre, la diversité dans les mélanges était visuellement, on a l'impression qu'il est un peu supérieur. En fait, il n'est pas différent significativement du peuplement de chênes qui lui avait je me suis trompée dans les couleurs. Du peuplement le rouge, c'était censé être le pin. Là, c'est du chêne. Donc, les collemboles étaient identiques en termes de diversité, richesse spécifique du peuplement le plus riche qui était le chêne. Et en ce qui concerne les oribates, ils étaient plutôt un peu plus favorisés. Donc, comme a montré Michael ce matin, les réponses sont assez variables sur la richesse spécifique en fonction des taxons, mais très rarement, le mélange a entraîné une augmentation, une amélioration de la diversité spécifique. Ça, c'est sur le nombre d'espèces, donc juste la richesse spécifique. Mais qu'en est-il des communautés, c'est-à-dire de la composition de ces espèces selon les peuplements. Alors, je vous présente ici à gauche pour les Carabes et à droite pour les Colamboles dans le sol. Les deux montrent la même chose, c'est-à-dire qu'on peut regrouper les espèces du peuplement pur de chêne, le distinguer bien du chêne pur de pin qui se distingue aussi du peuple, de la communauté de mélange. Donc, on a les populations, les communautés, pardon, dans les trois types de peuplement qui sont bien distincts les uns des autres. Et on n'a trouvé aucune espèce qui était spécifique au mélange. Donc, le mélange n'abrite pas des espèces qui ne vivraient qu'en mélange. On les trouve soit dans un des peuplements de pur. Mais un autre résultat très intéressant qu'on a trouvé, c'est sur les communautés, c'est à l'échelle plutôt massive, c'est l'indice de similarité, c'est-à-dire que c'est l'indice de similarité Jacquard qu'on a utilisé pour les connaisseurs. Vous avez sur le graphique en ordonnée l'indice, le niveau de l'indice qui va de 0 à 1. Le niveau 0, c'est que les peuplements sont très différents, il n'y a aucune espèce qui se retrouve dans les deux peuplements. Et le niveau 1 de cet indice montre que les peuplements sont quasiment identiques, les communautés sont identiques, donc les espèces se retrouvent exactes toutes dans les deux peuplements. Donc, à gauche, on a la comparaison de deux peuplements purs, au milieu d'un peuplement pur avec un peuplement mélangé, et à droite, de deux peuplements mélangés. Ce graphique n'est pas issu du dispositif Optimix, mais j'ai fait le même calcul, on a le même type de résultats. Ici, c'est une étude que j'ai fait sur la faune du sol, sur toutes les données, il y a une méta-analyse, donc toutes les analyses de bibliographiques qu'il y avait à cette époque, c'était en 2016, sur la faune du sol. Et on se rend compte quand on compare les peuplements purs entre eux, ils sont plus différents que deux peuplements mélangés. Même si la composition de ces deux peuplements mélangés ne sont pas du tout la même essence. Ce qui veut dire qu'en fait, donc on retrouve dans les peuplements mélangés des espèces qu'on a déjà dans les peuplements purs, mais on élimine un certain nombre d'espèces qui sont dans chacun des purs. Et souvent, c'est des espèces qui sont inféodées à des conditions spécifiques de ces peuplements purs. Donc, on a un effet, le mélange induit un effet d'homogénéisation des communautés, ce que j'appelle un peu l'effet dit McDonald's. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom-là précédemment. C'est-à-dire que si vous mangez dans un restaurant McDonald's, que ce soit à Moscou, à Madrid ou à Paris, vous mangez toujours la même chose. Donc, vous avez le même menu. À l'inverse, si vous allez dans les restaurants spécifiques de ces pays, vous n'avez pas du tout les mêmes plats qui sont proposés. Et c'est exactement le même phénomène qu'on voit là. Donc, dans les mélanges, on a des communautés plus généralistes et on élimine les espèces qui sont plus spécialistes de la litière ou des conditions de ces peuplements purs. Donc, en conclusion, sur les résultats de nos travaux sur le dispositif de comparaison, de dispositif optimiste de comparaison des peuplements purs avec le peuplement mélangé, l'effet aussi de la densité d'espèces, mais surtout du mélange dans les premières années d'études. Donc la diversité des sens, que ce soit surtout à l'échelle parcelle, la diversité de la faune du sol, et se retrouve globalement plutôt intermédiaire ou au mieux égal au peuplement le plus riche. Ici, c'est souvent le feuillu, donc le chêne. Le mélange des essences n'a pas permis d'augmenter la diversité de la faune du sol, donc, sauf pour les oribates où on a vu une petite augmentation, mais elle était au mieux, au plus pour les bryophytes et les lichens et la faune du sol sur les taxons qu'on a étudié. Cela dit, la littérature globalement montre qu'un ajout d'un feuillu dans un peuplement d'origineux est plutôt bénéfique quand même à la diversité. Et comme, alors je ne l'ai pas marqué là, mais comme je vous l'ai dit, c'est surtout l'identité de l'espèce feuillue qui se rajouterait à un peuplement déjà mélangé, qui va être intéressant pour augmenter la diversité et les nombres d'habitats disponibles au sol. En termes de communauté, là on a vu un fort effet du peuplement, et même dans le mélange, on peut distinguer les communautés par rapport au peuplement pur. Mais cette modification-là est due à une homogénéisation des communautés. Et donc, ça peut avoir des conséquences sur la gestion. Et autant, Michael, ce matin, il ne s'est pas mouillé pour donner des préconisations en termes de gestion, ben moi, je vais me mouiller, parce que si on veut optimiser la biodiversité de la flore et de la faune du sol, ben c'est plutôt à l'échelle massive qu'il faudrait raisonner. Et c'est d'avoir une mosaïque de peuplement, de type de peuplement en termes d'essence, mais en termes de gestion sylvicole aussi, qui serait préférable d'avoir, plutôt que mettre des mélanges partout. Parce que même si le mélange a un certain nombre d'avantages sur la productivité ou la résilience, on a vu qu'en termes de biodiversité, il avait des limites et que l'installer partout, même si ce sont des mélanges de différentes essences, ça va quand même sélectionner certaines communautés au détriment d'augmenter la diversité. J'en termine juste pour remercier mes collègues, parce que c'est un travail collectif à la fois pour l'installation, le suivi et l'acquisition de ces données, mais aussi collectif avec d'autres partenaires. Parce qu'on fait des suivis par d'éthique avec d'autres équipes d'INRAE, on fait des suivis physiologiques avec d'autres équipes aussi d'INRAE, mais d'Université d'Orléans par exemple, l'ISTO ou à Paris, l'Université de Rouen, et on a aussi des collaborations un peu internationales. Et ma dernière diapo, pour vous dire, c'est d'un dispositif donc, de long terme, où on est ouvert à tester des choses, ouvert à faire venir des scientifiques qui voudraient étudier d'autres taxons. J'ai toujours, enfin, suite à ce matin, et puis j'avais toujours en idée d'augmenter les taxons étudiés, mais la flore et la microfaune du sol seraient quelque chose de vraiment intéressant à investiguer. Ce dispositif est également intégré à un certain nombre de réseaux. Donc, on est un réseau de suivi de la production des arbres jusqu'aux coopératives de données, mais des suivis aussi des réseaux nationaux comme ANAE, Zone Atelier Loire et Tempo pour le suivi de la phénologie. Voilà, maintenant je peux répondre à vos questions. Je vais finir un partage.